France Culture, le dimanche, 23h, une porte s'ouvre sur l'imaginaire.
Création on air. On air. On air. Creation on air.
Il y a 100 ans, une jeune fille anglaise accouchait d'un monstre. Mary Shelley créait Frankenstein. Elle forma avec Percy Shelley un des couples les plus épris d'absolu et de liberté de la littérature. C'est le destin incandescent de Percy Shelley que nous vous proposons d'écouter, au casque, les yeux fermés, en son 3D. Un film sonore de Céline Terce, Ludovic Chavarot, avec Gaspard Ulliel, Warren Ellis et Marianne Faithfull.
Oh, follow, follow. Oh, follow, follow, follow me.
Oh, follow, follow.
Oh, follow, follow. Oh, follow, follow, follow me.
On the shadows of the morning clouds, athwart the purple mountain slope, was written, follow, oh follow, as they vanished by.
And on each herb from which heaven's dew had fallen, the like was stamped, as with a withering fire, and then low, sweet, faint sounds, like the farewell of ghosts.
Like
were heard.
Farewell of ghosts were heard. Oh, follow, 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 follow me.
Suis-nous. Hurlèrent les échos de la mer sur les ombres errantes au flanc violet d'une montagne. Suis donc, oh, suis donc. Et sur chaque herbe d'où la rosée du ciel était tombée, ces mots étaient gravés comme par un feu desséchant.
Shelley, the writer of some infidel poetry, has been drowned. Now he knows whether there is God. Oh no.
La T gît à 5 brasses de profondeur. Les dés en enfer sont forgés de ses os.
4 fathom 5, the atheist lies. Of his bones are hell dice made.
J'ai connu cet homme misérable et connais bien sa répugnante histoire.
I knew this miserable man and know well his disgusting story.
Shelley n'était pas mauvais par nature, mais il avait adopté la philosophie du diable.
But he had adopted the devil's philosophy.
Midst others of less note came one frail form.
Parmi ceux d'un moindre renom,
a phantom among men,
il vint une fragile forme.
Companionless as the last cloud of an expiring storm.
Un fantôme parmi les hommes, sans compagnon, semblable au dernier nuage d'un orage qui se meurt et auquel le tonnerre sert de glas.
He, as I guess,
il avait, je crois bien, contemplé la beauté de la nature à nu. Il fuyait, éperdu, et le pas hésitant dans le désert du monde, et ses pensées sur ce rude chemin, comme des chiens furieux poursuivaient et leur père et leur proie.
Italie. Un corps fut retrouvé sur le rivage, près de Viareggio. La figure, les mains, toutes les parties qui n'étaient pas protégées par les vêtements, n'avaient plus de chair.
tremble, gleam, and disappear.
Trembler un instant, luire et disparaître.
Le brasier Shelley. Sussex, Horsham, année 1792-1802. La fenêtre de sa chambre donnait à l'ouest, vers le soleil couchant. Il y avait une vaste pelouse avec un petit glacis à l'entrée. Puis un bouquet d'arbres énormes. Des ormes remplis de freux, des cèdres, des séquoias américains rapportés en Angleterre par son grand-père. Et plus éloignés et plus sombres, des rhododendrons et des sapins. Au milieu des arbres, il y avait le lac. Puis s'étendaient le verger et le pré du Midi. La maison s'appelait Field Place.
There was a tall oak staircase which shone in the candlelight when he went to bed. Field Place had once been a Tudor farmhouse, and it still had a great stone-floored kitchen.
Il y avait un grand escalier en chêne qui brillait à la lumière de la chandelle lorsqu'il allait se coucher, ainsi que plein de petites pièces placards, de portes verrouillées et de greniers aux poutres recouvertes de toiles d'araignée.
Lorsque son père revenait du Parlement, il allait s'asseoir dans son bureau. Sur l'un des murs, il y avait une peinture du Christ crucifié. Et sur l'autre, une gravure italienne du Vésuve en éruption. Ses sœurs, Elizabeth et Mary, regardaient Percy dans une admiration muette. Il leur racontait des histoires à partir de ses explorations dans le jardin, les bois, autour du lac, des aventures invraisemblables, voire diaboliques.
He was fascinated by moonlight and candlelight.
Il était fasciné par le clair de lune et la lumière des chandelles et le feu entra tôt dans ses rituels de conteur d'histoires, d'alchimiste et d'évocateur de fantômes.
Longtemps après, on trouva dans la bibliothèque des enfants de Field Place un exemplaire malmené des Tales of Terror de Matthew Lewis, dont les marges avaient été annotées de croquis enfantins grotesques de diables, de monstres cornus et d'esprits dus à la main de Shelley.
On le réprimanda de jouer trop brutalement avec le petit John et d'avoir écrasé sa poussette dans une plantation de fraises.
Was not though amusing either.
On ne trouva guère amusant non plus que le premier mot qu'il lui apprit à dire fut « diable ».
Il présentait le curieux phénomène du dédoublement, se plaisait à être un autre, rêvait tout éveillé, dans une sorte d'abstraction léthargique, pendant laquelle son langage était, d'après des témoins, plutôt d'un ange que d'un homme.
Un soir, on vit au loin une lueur, puis un embrasement. C'était le bateau de l'étang qui flambait. Le feu gagna la buanderie, puis une meule de fagots.
Men scarcely know how beautiful fire is. Each flame of it as a precious stone dissolved in ever-moving light.
Percy Shelley observait le spectacle de sa chambre et rayonnait.
On ne sait pas combien est beau le feu, dont chaque flamme est comme une pierre précieuse qui se fondrait en lumière toujours changeante.
Thank you.
October the 2nd, 1822, Genoa. 2 octobre 1822. On the 8th of July, I finished my journal. Ce fut le 8 juillet que j'achevai mon journal. This is a curious coincidence. Étrange coïncidence. The date still remains. De ce fatal 8 juillet. The fatal 8th. La date demeure. A monument to show the truth. Telle une stèle érigée pour attester que tout prit fin ce jour-là.
Because we listen, we cannot stay. As dew stars glisten, then fade away. Child of ocean.
Le collège Eton. Shelley entre au collège d'Eton au mois de juillet 1804. Il y resta 5 années et quelques mois. Bientôt, on ne l'appelait plus que Shelley le fou.
Pendant le temps que je fus là, l'élève le plus remarquable était Percy Shelley. À cet âge, il montrait un talent poétique impressionnant, accompagné d'un tempérament violent et extrêmement excitable, qui se manifestait par toutes sortes d'excentricités.
Il passait auprès de ses condisciples pour un être étrange, insociable, et ses promenades solitaires le long d'un mur exposé au midi, son éloignement des plaisirs de son âge, ses rêveries vagues, fortifiaient cette opinion.
Je l'ai vu encerclé, conspué, harcelé tel un taureau rendu fou.
Le nom d'un élève était lancé par l'un, repris par un autre, puis un autre. Jusqu'à ce que des centaines de voix reprissent en écho le nom. Le Shelley, 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 qui grondait dans les cloîtres.
Si je devais lire autant que toi, Shelley, mes cheveux et mes dents joncheraient le plancher. Shelley se mit à racler le tapis de son pied comme si des dents y étaient bel et bien répandues. Et il me dévisagea fixement en me montrant dans sa fantaisie débordante ses orbites vides.
Le résultat était un paroxysme de colère qui lui faisait étinceler les yeux comme ceux d'un tigre, pâlir les joues comme celles d'un mort.
Protecteur et un ami, en la personne d'un savant médecin et chimiste, le docteur James Lind, qui lui inspira une véritable passion pour les recherches scientifiques et notamment pour la chimie. Tantôt, on le voyait armé du microscope solaire, mettre le feu à une traînée de poudre, aboutissant à un vieux tronc d'arbre qui s'enflammait. Tantôt, il s'amusait, dans sa chambre, à renverser une poêle à frire, pleine de substances chimiques, dont la détonation réveillait toute la maisonnette.
Ses mains et ses habits étaient constamment tachés et rongés par les acides.
Il se mit alors, avec beaucoup d'ardeur et d'enthousiasme, à me montrer divers instruments, en particulier l'appareillage électrique, tournant très rapidement la manivelle, de sorte que les étincelles crépitantes jaillissent violemment. Il monta sur l'escabeau au pied de verre, il me pria d'actionner la machine jusqu'à ce qu'il fût envahi par le fluide au point que ses longues boucles en bataille se dressassent et se tinssent toutes droites sur sa tête.
Soustrait au fléau de l'ange, tu seras ligué aux pierres des champs.
Oh, follow, follow.
In the world unknown sleeps a voice unspoken. By thy step alone can its rest be broken, child of ocean. Oh, follow, follow, through the caverns hollow.
8 années durant, j'ai conversé en toute liberté avec un être dont le génie infiniment supérieur stimulait et guidait ma réflexion. Now I am alone. Me voici désormais seul. Oh, how alone. Oh, combien seul. Stars may behold my tears. Que les étoiles contemplent mes larmes. And the winds drink my sighs. Que le vent boive donc mes soupirs.
Child of ocean.
University College of Oxford. À 18 ans, le pensionnaire Shelley s'y fit bientôt remarquer par ses excentricités. Portant des cols rabattus à la Byron, une veste bleue aux boutons étincelants d'acier, une chevelure longue et touffue sous un petit chapeau rond. Dans cet accoutrement, il lisait ou discutait à haute voix dans les rues ou sur les places publiques de la ville universitaire. Avec son complice Thomas Jefferson Hogue, le jeune homme entre en subversion.
Hogue, c'est moi.
Ambition, power, and avarice now have hurled death, fate, and ruin on a bleeding world. See on yon heath what countless victims lie.
En 1796, la blanchisseuse Margaret Nicholson avait tenté d'oxyre le roi George III avec un couteau à dessert. Elle finit internée dans un asile. Shelley et Hogue lui inventèrent un neveu, soucieux d'éditer les œuvres poétiques de son intrépide tante, poèmes qu'ils se chargèrent eux-mêmes d'écrire.
L'ambition, le pouvoir et l'avarice ont lancé la mort. Le malheur et la ruine sur un monde qui saigne. Voyez la lande où gisent d'innombrables victimes. Écoutez les cris stridents qui montent aux cieux. Dites-en donc la cause. Il est sûr que la fureur du vengeur a balayé ces myriades hors de la scène encombrée de la vie. Écoutez ce gémissement. Un héros meurt dans la souffrance. Il frissonne en proie aux douleurs ultimes du trépas. Qu'y a-t-il de plus doux pour l'oreille de la vengeance que le hurlement d'un tyran, tombé et expirant ? Le livre se vend merveilleusement bien ici et devient un sujet de discussion à la mode. On peut rencontrer dans la rue haute des hommes de robe lisant le joli volume en se promenant, pensifs, avec un air de satisfaction douce et grave. Il devient à la mode de se promener en public en le lisant pour faire preuve de fin jugement, d'un goût délicat et distingué en poésie. C'est le vrai critère d'un esprit d'élite. Personne n'en soupçonne l'auteur. La chose passe comme la production originale de la régicide en question.
L'ouvrage fut pourtant brûlé sur ordre des autorités.
Oh, I burn with impatience for the moment of Christianity's dissolution. It has injured me.
Oh, je brûle d'impatience dans l'attente du moment où le christianisme se dissoudra. Lui qui m'a porté préjudice.
I swear,
je jure sur l'autel de l'amour trahi de me venger moi-même. Certes, je crois qu'il est au bénéfice de la société de détruire les opinions qui peuvent annihiler ses liens les plus chers. Adieu. Écrasez l'infâme, écrasez l'impie.
1811, sous pseudonyme, il publie « La nécessité de l'athéisme ».
There is no God.
Il n'y a pas de Dieu. Cette réfutation doit être comprise comme visant exclusivement la déité créatrice. L'hypothèse et l'omniprésence d'un esprit coéternel à l'univers restent à établir.
Il est exclu de l'université.
My dear father,
mon cher père, vous avez sans doute entendu parler de mon infortune et de celle de mon ami Hogg. Puis-je appeler votre attention sur la réclame du livre, qui méritait assurément une réponse, non une expulsion.
En parlant de livre, nous avons vu récemment se lever ici, dans tout son éclat, un soleil littéraire face auquel nos précédentes sommités doivent cacher leur tête non réduite. Un certain monsieur Shelley de University College, qui vit d'arsenic, d'eau forte et d'une demi-heure de sommeil par nuit, désespérément amoureux du souvenir de Margaret Nicholson, la régicide. Il a publié ce qu'il nomme poème posthume, qui, je regrette de le dire, bien que sentant la trahison à plein nez, sont extrêmement ennuyeux. Mais l'auteur est un grand génie. Et s'il n'est pas bouclé à l'asile de Bentlam, ou pendu, se révélera certainement comme un des plus beaux signes du rivage de Sherwell. Notre Apollon s'est ensuite signalé par un pamphlet en prose faisant l'éloge de l'athéisme, que je n'ai pas encore vu. Puis il fit paraître un roman monstrueux en un volume, intitulé Saint-Irvine. Tous les héros sont des bandits endurcis et des meurtriers sans cause, tandis que les héroïnes arpentent en chemise les rues de Genève, frappent aux portes du palais de leur bien-aimé, et n'y étant pas admises, ne laissent point de carte, mais regagnent en courant la chaleur de leur lit et s'y donnent la mort.
Tout journal, livre voué au silence, à la nuit et à jamais. Je te voyais toujours à mes côtés, mon refuge et mon esquif. Oh, la nature avait gravé sur ta proue le mot destruction.
Surpris par ses propres pensées, il regarda tout autour. Nul beau démon près de lui et nulle vision. Nul bruit effrayant, sauf en son esprit. Son esprit, qui errait, impatient.
Shelley enlève Harriet Westbrook, 16 ans, et l'épouse le 28 août à Édimbourg. Émeute ouvrière violemment réprimée par l'armée. Son père le renie. 1812. Expédition en Irlande. Son athéisme irrite jusqu'aux plus radicaux des Irlandais. Il est pressé de quitter le pays. Lynmouth, avec Harriet. Il fabrique de petites montgolfières de soie porteuses de pamphlets révolutionnaires. Queen Mab devient l'étendard des révoltés anglais, irlandais et américains. Shelley est privé des droits de garde de ses enfants. 1813. Séjour au Pays de Galles. Affaire du barrage de Tremadoc. Shelley échappe à une tentative d'assassinat. Début de la surveillance de Shelley. Une de ses malles est fouillée à un bureau de poste. «
corpses are cold in the tomb. Stones on the pavement are dumb. Abortions are dead in the womb, and their mothers look pale, like the death-white shore of Albion, free no more.
Les cadavres sont froids dans la tombe. Les pierres du pavé sont muettes. Les fœtus ont péri dans la matrice, et pâles sont leurs mères. Comme le rivage blafard d'Albion, qui n'est plus libre. Piétine donc et danse, toi, l'oppresseur. Tu es seul seigneur et maître de ces cadavres, de sa glaise et de ses avortons. Ils pavent ton chemin vers la tombe. Entends-tu le bruit de fête de la mort, de la destruction, du péché et de la richesse qui crie à l'intérieur à la ruine? C'est la bacchanale triomphante qui rend la vérité muette. Ah, épouse ta spectrale fiancée. Épouse la ruine, tyran, et que l'enfer te conduise au lit de ta mariée. Debout. Debout. Debout.
Arise. Arise. Arise.
Il y a du sang sur la terre qui vous refuse du pain.
There is blood on the earth that denies your bread.
Que vos blessures soient comme vos yeux pour pleurer les morts, les morts, les morts.
The dead. The dead.
Ils furent vos fils, vos femmes, vos frères massacrés au jour de la bataille. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. L'esclave et le tyran sont deux ennemis jumeaux. Secouez vos froides chaînes sur la poussière où vos frères reposent.
Be the cold chains shaken to the dust where your kindred repose.
Faites ondoyer bien haut la bannière quand la liberté s'élancera à la conquête.
Wave high the banner.
Gloire, gloire, gloire à ceux qui ont grandement souffert et agi. Aucun nom dans l'histoire n'a jamais été plus grand que celui que vous gagnerez. Couronnez, couronnez vos fronts de violette, de lierre et de pin, cachez les taches de sang. Les vagues dorment ensemble quand les souffles qui les soulèvent cessent de batailler.
Toujours marié à Henriette, Shelley fait la connaissance de la fille de son maître à pensée philosophique, William Godwin, Mary Wollstonecraft.
This book is sacred to me, and as no other creature shall ever look into it. I remember well his coming to me from writing it. Ce livre est pour moi sacré, pale and agitated, et personne d'autre ne l'ouvrira. Je me rappelle bien comment il vint à moi après l'avoir écrit, pâle et agité. No man had such keen sensations as Shelley. Personne n'éprouvait des sensations aussi aiguës que Shelley. Dearest and only love, très cher et seul amour, although I may not be yours, bien qu'il se peuve que je ne sois pas tienne, I could never be another's. Je ne pourrai jamais être un autre.
Juin 1814, cimetière de Saint-Pancras. Sur la tombe de sa mère admirée, Mary Wollstonecraft Godwin déclare sa flamme à celui qui va devenir l'homme de sa vie. Elle a 16 ans.
The wind has swept from the wide atmosphere each vapor that obscured the sunset's ray, and pallid evening twines its beaming hair in duskier braids around the languid eyes of day. Silence and twilight and beloved of men creep hand in hand from yon obscurus glen.
Le vent a balayé de l'immense atmosphère chaque vapeur qui obscurcissait le rayon du soleil couchant, et le pâle soir entrelace sa chevelure rayonnante en tresses de plus en plus sombres autour des yeux languissants du jour. Silence et crépuscule, aborés des hommes, viennent en rampant, la main dans la main, de cette obscure vallée, là-bas. Enlaçant la terre, l'air, les étoiles et la mer.
The dead are sleeping in their sepulchres, and, mouldering as they sleep, a thrilling sound, half sense, half thought, among the darkness stirs.
Les morts dorment dans leur sépulcre, et pendant qu'en dormant ils tombent en poussière, un murmure qui fait tressaillir.
Its awful hush,
moitié sensation, moitié pensée,
is felt inaudibly.
Se remue dans les ténèbres. Terreur haletante, mais ineffablement étrange, s'exhale maintenant de tes lèvres, un ombre ascendant et rapide. La voûte du ciel semble se déchirer et se fendre, et sur mes épaules, des ailes se tissent jusqu'à ce que les sombres murailles du monde soient franchies et disparaissent. Ta voix reste suspendue sur mon âme. Le sang et la vie, dans tes doigts de neige, apprend la magie aux cordes de l'instrument. Et des ombres tumultueuses, rapides et épaisses, tombent sur mes yeux débordants.
The cavern's hollow,
follow me.
As the song floats, thou pursue. By the woodland noontide dew, by the forest, lakes, and fountains.
Have treated me ill, vilely. When I was expelled for atheism, you wished I had.
Vous m'avez traité mal, bassement. Lorsque j'ai été exclu pour athéisme, vous auriez souhaité que j'eusse été tué en Espagne.
I shall take the first opportunity of seeing you.
Je saisirai la première occasion de vous voir. Si vous ne voulez pas entendre mon nom, moi je le prononcerai.
Think not I'm an insect.
Ne pensez pas que je sois un insecte que les blessures détruisent. Aurais-je assez d'argent que je viendrais vous trouver à Londres et vous vrirais dans les oreilles, biche, biche,
biche,
biche, biche, jusqu'à ce que vous en soyez sourd.
Juin 1816, La Clément, Villa Diodati.
À l'été de 1816, nous visitâmes la Suisse et devînmes les voisins de Lord Byron.
Les natifs de Genève et les Anglais qui y vivaient n'hésitaient pas à affirmer que nous menions l'existence du libertinage le plus effréné. Permettez-moi, madame, de vous épargner les détails. Je vous dirai seulement que l'athéisme, l'inceste et bien d'autres choses, parfois ridicules et parfois terribles, nous étaient imputés. Les journaux anglais ne tardèrent pas à répandre le scandale et les gens y crurent. Les habitants des rives du lac opposé à la maison de Lord Byron utilisaient des télescopes pour espionner nos mouvements.
Some volumes of ghost stories, translated from the German into French, fell into our hands. Quelques volumes d'histoires de revenants traduites de l'allemand en français tombèrent entre nos mains. There was the history of the inconstant lover. Il y avait l'histoire de l'allemand inconstant, qui, croyant étreindre celle qu'il avait promis d'épouser, se retrouvait dans les bras du fantôme blême qu'il avait abandonné. There was the tale of the sinful founder of his race. Il y avait le conte du coupable fondateur de sa lignée, dont c'était l'affreuse destinée que de donner le baiser de la mort à tous les fils cadets de sa dynastie maudite. We will each write a ghost story. Nous écrirons chacun une histoire de fantôme, dit Lord Byron. Nous étions quatre. Je me préoccupais aussi d'écrire une histoire. Une histoire qui s'adresserait aux peurs mystérieuses existant dans notre nature, qui glacerait le sang et ferait battre plus vite le cœur.
Minuit se mit réellement à parler spectre. Lord Byron récita des vers de Christabel de Coleridge sur le sein de la sorcière. Beneath the lamp, the lady bowed and slowly rolled her eyes around, then drawing in her breath aloud, like one that shuddered, she unbound the cincture from beneath her breast. O shield her, shield, sweet Christabel. Puis le silence s'en suivit, et Shelley, poussant soudain un cri et portant ses mains à sa tête, se précipita hors de la pièce avec une chandelle. Il regardait Mary et pensa soudain à une femme qui avait des yeux à la place des mamelons, ce qui l'horrifia.
Lorsque je mis la tête sur l'oreiller, je vis, les yeux fermés, mais c'était une vision mentale très aiguë. Je vis l'homme blême s'adonnant aux arts illicites, agenouillé auprès de la chose qu'il venait d'assembler. Je vis allongé le hideux fantasme d'un homme. Je le vis ensuite montrer des signes de vie, puis se mettre à bouger en un mouvement malaisé et seulement à demi-vivant.
mars 1818. Il parcourt l'Italie, Milan, Naples, Rome, Pise. Shelley passe la plus grande partie de sa vie sur l'eau, sur la Tamise, puis sur le lac de Genève, et en dernier lieu sur les lacs d'Italie.
A ship is floating in the harbor now. A wind is hovering over the mountain's brow.
Un navire est à flot dans le port. Un vent plane au-dessus du front de la montagne.
Say, my heart's sister,
dis, sœur de mon cœur, veux-tu voguer avec moi?
Février 17. Tempête s'est abattue sur moi. j'ai cru entendre Shelley m'appeler. Mary, c'est Shelley, songeais-je. Cette illusion me laissa plongée dans une mortelle affliction. Je sens les murs de ma prison se resserrer après moi. Je pourrais palper les épaisses ténèbres qui me cernent. Et je tremble, isolée à la pointe d'un étroit promontoire rocheux.
Qui suis-je ? Vous demandez-vous. Je m'appelle Sir Edward Trelawney, corsaire. Durant l'été 1819, je me trouvais à Ouchy, village des bords du lac de Genève, et sympathisais avec un jeune libraire. Je peux, tout en marchant, lire et comprendre vos poètes modernes, me dit-il. Byron, Scott et Moore. Mais j'ai là le livre d'un autre qui me force à m'arrêter et reprendre mon souffle. C'était « La reine Mab » d'un certain Shelley. Et c'est alors qu'un prêtre bedonnant, après un coup d'œil sur les notes, éclata. Mécréant, jacobin, niveleur, de bûcher seul pour arrêter pareil flot de blasphème, le monde en revient au maudit paganisme et à l'anarchie générale. Quand le prêtre fut parti, je ramassai le livre qu'il avait jeté à terre en me disant « En voilà un qui mériterait certainement un coup d'œil. »
As I lay asleep in Italy, there came a voice from over the sea.
Un jour, en Italie, comme j'étais endormi, il vint une voix de par-delà la mer, dont l'irrésistible puissance m'entraîna dans le champ des visions de la poésie.
I met murder on the way.
Je rencontrai sur le chemin le meurtre.
He had a mask like Castlereagh.
Il avait un masque ressemblant à Castlereagh.
Very smooth he looked.
Son regard était doux
grim.
Et cependant horrible.
Seven bloodhounds followed him.
Sept chiens de sang le suivaient.
Pise. Trepalazzi. Demeure conjointe du couple Williams et du couple Shelley. Deux yeux brillaient dans le couloir, près de la porte ouverte face à moi, et me regardaient fixement dans l'ombre. Rougissant comme une enfant, un grand jeune homme s'avança vivement en me tendant les deux mains. Comment croire que ce visage féminin et à l'air si doux pût être un monstre en guerre avec le monde entier ? Excommunié par les pères de l'Église, privé de ses droits civils par décision d'un lord chancelier cruel, rejeté de toute sa famille et dénoncé par les sages de notre littérature comme le fondateur d'une école satanique.
The sun is set.
Le soleil est couché.
There is no dew on the dry grass tonight.
Il n'y a point de rosée cette nuit sur la terre desséchée.
The wrinkled image of the city lay.
L'image ridée de la cité s'étend dans un éternel mouvement. Et elle tremble toujours, sans jamais s'évanouir.
Je noircis, page après page, jusqu'à ce que l'épuisement me contraigne à abandonner ma plume.
Brusque, elle se leva, comme si son cœur éclatait sous le fardeau impatiemment porté. Il vit, dans la chaude lumière de leur vie même, ses membres rayonnants sous un voile ondoyant, tissé devant, ses bras ouverts, maintenant nus, vit ses yeux se pencher, rayonnants, s'entr'ouvrir, s'offrir ses lèvres pâles, frémissantes d'ardeur. Son cœur ferme son bras, succombant à l'excès de l'amour. Il dressa ses membres frissonnants, contint son haleine haletante, tendit les bras pour étreindre son sein palpitant. Reculant un instant, puis cédant à la joie impérieuse, avec un geste brusque, un cri bref, étouffé. Elle entoure son corps de ses bras où ils fondent. Alors, voilant ses yeux pris de vertige, la nuit recouvrit, engloutit la vision.
Shelley avait eu deux visions. L'une était celle des figures lacérées d'Edwards et de Jane Williams, couverts de sang, qui entraient dans sa chambre en titubant et en se soutenant l'un l'autre, et qui criaient. L'autre vision était celle du moment où il s'était précipité dans la chambre de Mary pour la réveiller. Il vit sa propre silhouette en train de se pencher sur le lit et de l'étrangler.
Il avait vu sa propre silhouette venir à sa rencontre, alors qu'il arpentait la terrasse, et lui dire « Combien de temps as-tu l'intention d'être satisfait ?»« How long do you mean to be content ?»
le soir. Ponte Almar, Pise. Notre bateau est endormi sur le courant du Serchio. Ses voiles sont repliées comme les pensées dans un rêve. La barre du gouvernail flotte nonchalamment de ça, de là. Le bateau dort profondément, comme une bête inconsciente de sa chaîne.
In the world unknown,
dans le monde inconnu,
sleeps a voice unspoken,
dort une voix silencieuse.
By thy step alone,
jusqu'aux fissures,
can its rest
fonte,
be broken,
abîme,
child of ocean,
où la terre a guéri de ses spasmes.
Oh, follow, follow, oh, follow, follow, follow me.
Le 8 juillet 1822, à Livourne, Shelley embarque sur son bateau le Don Juan, accompagné de Williams et d'un mousse. Quoique le soleil fût voilé par les brumes, il faisait une chaleur étouffante et pas un souffle d'air.
The earthquake fiends are charged to wrench the rivets from my quivering wounds.
Les démons des tremblements de terre ont mission d'arracher de mes plaies lancinantes les rivets quand les rocs se fondent.
While from their loud abysses, howling throng,
puis se referment.
The genie of the storm, urging the rage of whirlwind, and afflict me with keen hail.
les génies des tempêtes, stimulant la fureur de l'ouragan, massage de grêlons aigus.
Thunderbolts had parched our water. We had been stained with bitter blood and had run mute mid shrieks or slaughter through a city and a solitude.
Un brouillard se leva et enveloppa bientôt le bateau de Shelley, qui disparut.
Les eaux étincellent, la blanche grêle se précipite, les éclairs luisent, l'embrun blanchissant danse. Fuyons. Le tourbillon roule, le tonnerre gronde, les cloches du monastère sonnent. Fuyons. La terre est comme un océan parsemé de débris et soulevé. Oiseaux, bêtes, hommes et vers ont rampé loin de l'ouragan. Fuyons.
Les cavernes s'envoient des collines rocheuses, crièrent « Malheur ». Le ciel concave répondit
«
Malheur ». Et les vagues violettes de l'océan, envahissant la terre, au vent cinglant hurlèrent « Malheur ».
And the ocean's purple waves, climbing the land, howled to the lashing winds, and the pale nations heard it. Misery.
As-tu peur? Vois-tu? Entends-tu? Ne fuyons-nous pas libres sur la terrible mer, moi et toi? L'océan fouetté, comme des montagnes en mouvement, se retire, se soulève, s'engouffre, éclate et se brise en tous sens.
Are cloven, and through the purple night I see cars drawn by rainbow winged steeds.
Les rocs se fondent, et à travers la nuit pourpre, je vois des chars tirés par des coursiers aux ailes d'arc-en-ciel, foulant les vents obscurs. Sur chacun d'eux se tient un cocher, aux yeux farouches pressant leur envol.
Some look behind, as fiends pursue them there, and yet I see no shapes but the keen stars. Others with burning eyes.
Certains qui se retournent semblent voir des démons à leur poursuite. Et pourtant, je ne vois de forme que les étoiles vives. D'autres, avec des yeux ardents, se penchent, et de leurs lèvres avides boivent le vent. Leur propre vitesse.
And now, even now, they clasped it.
Le corps de Shelley fut rejeté 10 jours plus tard sur la plage entre Massa et Viareggio. Il avait 29 ans. Le bruit sourd et caverneux qui suivit un coup de pioche nous fit sursauter et revenir à la réalité. Avec des barres de fer et de la grosse tôle, je fis fabriquer sur la plage un foyer monté sur pied. Tenailles à longues poignées, pinces, perches munies de crochets ou de pointes de fer permirent de transporter le corps en décomposition, sans entrer en contact avec les substances qui s'en émanaient. Le corps fut placé entier sur le foyer. On versa sur le cadavre plus de vin qu'il n'en avait bu de sa vie, lequel, avec l'huile et le sel, donnait des flammes capricieuses d'un jaune chatoyant. Soudain, le corps s'ouvrit, laissant le cœur à découvert. Le cœur était resté intact.
Le brasier chêlé. Trembler, luire un instant et disparaître. Avec Gaspard Ulliel, Lola Peplot, Christophe Dillis, Warren Ellis, Jean-François Néolier, Jérôme Ters, Tanguy Blum, Léopold Tobisch, Céline Ters et la participation exceptionnelle de Marianne Faithfull. Musique originale composée par Warren Ellis et Augustin Viard. Coordination Irène Omelianenko. Attachée d'émission Shushan Tchergaïan. Prise de son Frédéric Changenet, Bernard Laniel, Jean-Michel Coqui, Éric Villenfin. Mixage, Frédéric Changenet. Un atelier de création radiophonique de Ludovic Chavarot et Céline Ters. Ce film sonore est dédié à Marguerite Boussuge et Alexandra Crespan. Merci à Lou Guibert.